Marc Dauphin, bonjour.
Bonjour, Mme Paquette.
Vous savez, j'étais un petit peu nerveuse de vous parler aujourd'hui parce que, dans le cadre de mon boulot, je parle à des médecins tous les jours, mais à des soldats, en fait, des gens qui ont servi très, très rarement. Donc, c'est un honneur de vous parler aujourd'hui. Merci d'être là.
Ça me fait plaisir, madame. Désolée de ne pas pouvoir être en studio.
Bien, on vous préférait en sécurité, dans le confort de la maison, que sur nos routes en ce moment. Est-ce que je vous appelle... docteur ou plutôt officier, est-ce qu'il y a un terme que je dois utiliser davantage?
Oh, du moins, vous ne m'appelez pas madame, ça va être correct.
Marc Dauphin, ce qu'il y a de complètement fascinant, et là, vous venez de le démontrer, vous avez un humour formidable. J'ai l'impression que c'est une qualité qui vous a énormément servi pendant ces 6 mois à l'hôpital à Kandahar.
Effectivement, l'humour, quelquefois noir, même s'il était tellement noir qu'on ne peut pas le reproduire, là, on ne peut pas le raconter par la suite. On m'a dit que l'humour, ou en tout cas les gens de santé mentale m'ont affirmé que l'humour était une excellente arme contre toutes les horreurs que nous voyons tous les jours.
Lors d'une visite à votre hôpital, il y a un général, général Lessard, qui vous a dit à vous et à votre équipe, quand vous rentrerez à la maison, racontez à tout le monde ce que vous avez fait ici. Vous l'avez fait en écrivant ce livre-là. Pourquoi c'était important de le faire?
Je voulais que les gens sachent les militaires font. Mm-hmm. Je voulais aussi que les gens sachent ce que la branche médicale des militaires faisait. Je voulais que les gens soient au courant de ces choses extraordinaires que nous avons accomplies. Nous avons, pendant les 4 ans où le Canada était responsable de cet hôpital-là, qui est un gros hôpital, je voulais que les gens sachent que le Canada a établi un record de survie des patients. C'est un record de tous les temps pour tous les hôpitaux, civils ou militaires. Alors, je voulais que les gens soient au courant de ça. Ce sont des choses extraordinaires qu'on a accomplies là-bas.
Oui. Vous dites d'ailleurs dans le livre, quand les gens arrivaient avec des signes vitaux, il y avait 97 % de chances de survie, peu importe le type de blessure.
C'est exact. Et il faut comprendre aussi que les blessures que nous recevions là-bas, c'était des blessures que personne dans l'histoire n'a jamais reçues. Parce que ces gens-là ne se rendaient tout simplement pas vivants à l'urgence ou au premier traitement. Dans le passé, quand ça prenait 2 heures ou 3 heures à amener un blessé à l'hôpital ou dans le civil, on ne voit pas le même genre de blessure.
Non.
Alors, on était confrontés à des situations qui étaient totalement inconnues. Et il fallait que nous nous aidions entre nous autres, les hôpitaux, c'est-à-dire les 3 hôpitaux américains majeurs d'Irak, les 2 hôpitaux britanniques et américains majeurs d'Afghanistan et nous. Alors, on partageait notre savoir et puis c'est comme ça qu'on a réussi.
Marc Dauphin, on fait comment pour... Bon, vous êtes dans l'armée, vous avez été dans l'armée depuis 1972, donc il y a un entraînement derrière tout ça, bien sûr, mais là, la nature de la mission était différente. Là. Vous en alliez sur une zone de combat en Afghanistan pour diriger cet hôpital-là, vous l'avez dit, un gros, gros hôpital. On fait comment pour se préparer à ça?
On étudie. Moi, ça faisait déjà... presque 7 ans que j'avais pas fait de grosse urgence, que j'avais pas fait d'intervention là, majeure en salle d'urgence. Et en 7 ans, je vous jure que la médecine d'urgence a évolué.
Mmh.
Alors, j'ai étudié pendant presque 1 an. Et je suis reconnaissant. Les forces armées ne m'ont jamais refusé quoi que ce soit. Ils m'ont envoyé à Toronto, ils m'ont envoyé à Saint-Jean-Terre-Neuve.
En Allemagne.
Ils m'ont envoyé en Allemagne, partout où je pouvais me mettre à date. Puis en plus, c'était pas juste diriger l'hôpital que j'avais comme rôle, il fallait que je dirige aussi la salle de trauma. Donc j'avais un rôle médical en plus d'un rôle administratif. Et c'est moi qui étais ce qu'on appelle l'officier trieur, c'est-à-dire lorsqu'il arrive plusieurs blessés graves en même temps, ils ont chacun 60 minutes, mais c'est tout simultané. Alors, il faut décider lequel va à la salle d'opération en premier, lequel va au CT scan en premier, etc. Ça, c'était ma job. Et en plus, il a fallu que je réapprenne les nouveautés en évacuation aéromédicale, parce que chaque patient militaire qui montait dans un avion pour revenir soit aux États-Unis ou au Canada ou au Royaume-Uni ou en Allemagne ou en France me passait par les mains. Et il fallait que je m'assure qu'il arrive vivant à l'autre bout. Alors, ça a été tout un travail.
On l'a dit quelques fois jusqu'à maintenant, un gros hôpital. Vous étiez combien à travailler? Parce que, bon, il y a des neurochirurgiens, il y avait des physiothérapeutes, il y avait vraiment des spécialistes en santé là, de tous les horizons.
Oui, c'est un hôpital qu'on appelle de rôle 3. Alors, nous avions un CT scan, trois machines à échographie, quatre machines à radiographie, juste pour vous donner un exemple. J'avais des radiologistes, des neurochirurgiens, des orthopédistes, des anesthésistes, des intensivistes, des urgentistes. J'en avais toutes les couleurs. Et malgré tout ça, c'était un staff qui était quand même tout petit, c'est-à-dire à peu près 225 à 450. Ça variait okay. là, entre les deux.
Des infirmières également, des infirmiers.
Infirmiers, infirmières en soins intensifs, des médics, des infirmiers, des infirmières en soins de tous les jours. J'avais une clinique externe aussi où on voyait de 200 à 300 patients par jour. Là. C'est pas rien, ça. Mm-hmm. Alors, c'était un hôpital occupé.
Et des gens, on doit le dire, qui viennent de plein de pays différents, plein d'origines, plein de cultures. On fait comment pour arrimer tout ça et qu'il y ait une bonne entente?
Ouais, ça, c'était une de mes grandes inquiétudes en partant. Heureusement, les gens sont des professionnels, là, et on a eu très, très peu de frottements à ce niveau-là. Il y a eu quelques frottements entre des pays, peut-être, là, de plus de gauche, là, mm-hmm. des représentants de pays plus de gauche en Europe, et puis nos confrères américains qui sont plus à droite. Là.
Ouais.
Mais dans l'ensemble, ça a très, très, très bien été.
Il y a une histoire qui m'a beaucoup bouleversée, Marc Dauphin, dans votre livre. À un moment donné, vous annoncez à l'équipe qu'il y a des cas graves qui s'en viennent. Votre équipe demande « Est-ce que ce sont de nos gars? » Et vous dites « Oui, oui, mais au fond, vous savez que ce sont des soldats afghans qui s'en viennent. » Et quand ces soldats arrivent, votre équipe dit « Mais là, c'est pas nos gars. » Ça, et vous dites, tant que je serai ici, vous les considérez comme les nôtres, ils se battent auprès de nous, ils seraient prêts à nous défendre. Il y avait aussi ce type de friction-là au sein de votre équipe.
Oui, il y a eu un petit peu, il y avait un petit peu de racisme, si on peut dire ça, non dit.
Oui.
Parce qu'on ne se comprenait pas avec les Afghans, il fallait toujours passer par des interprètes. Et leur culture est tellement différente de la nôtre. Ce sont les soldats, à ce que mes amis du 22 me disent, là, leurs soldats sont extrêmement courageux, même trop impétueux quelquefois, et d'autres fois extrêmement paresseux, puis ils ne se battront pas. Et puis, il y a beaucoup de corruption dans ce pays-là, alors on ne savait jamais, tu sais, s'ils allaient, si on se battait contre des chums, des soldats afghans avec lesquels on était, etc. Puis aussi avec la police afghane, il y avait énormément de corruption. Et puis des mœurs que nous désapprouverions ici. Là.
Oui.
Donc, c'est pas un racisme là, méchant, là, de dire qu'ils sont tous comme ça, mais c'était le choc de deux cultures.
Oui. Parlant de choc de culture, un autre épisode plutôt marquant. Et je raconte ces épisodes-là parce que moi, je suis entrée dans ce récit-là. J'y ai plongé parfois en étant bouleversée, comme je le disais tout à l'heure, parfois en étant fascinée, et j'ai envie que les gens plongent également dans cette histoire-là. Il y a une dame qui arrive, vous lui faites passer des radios, et suite à ces radiographies-là, vous vous dites, vous ne comprenez pas parce que tous les os de son cerveau sont en bouillie. Et deux, trois jours plus tard, vous comprenez qu'elle a été lapidée, probablement, parce que c'est une façon de faire en Afghanistan. Ça a été comment de gérer justement ces façons de faire là, différentes?
Ben, c'est pas facile. Hein? Vous imaginez que c'est pas facile. On a envie de leur crier par la tête, de, écoutez, gang de crise d'imbéciles, là, si vous me pardonnez l'expression. Mais ils sont à peu près, moi je dis qu'ils sont quelques centaines d'années derrière nous. Il ne faut pas oublier que dans les années 1600, ici on brûlait des sorcières.
Ouais.
Alors, ben, pas ici, mais aux États-Unis, là, tout près. Alors, ils n'ont pas évolué, mais disons, aussi vite que nous, puis aussi loin que nous.
Ou disons peut-être que le rôle de la femme est différent pour eux. La place de la femme n'a pas la même qu'ici.
Oh non, elle n'a pas. Oh non, c'est pas la même place qu'ici.
Autre chose, on parlait de votre humour tout à l'heure, Marc Dauphin, mais il y a également la peur qui a été un moteur tout au long de cette mission-là à Kandahar.
Oui, bien, moi, c'est la peur, j'avais pas nécessairement peur de la mort, puis j'avais pas nécessairement peur de mourir, comme tout le monde, là, mais sans plus. Je m'étais réconcilié avec ma propre mort et avec le fait de mourir là, avant de partir. Fait que, donc, ça, c'était pas dans l'équation. Moi, j'avais peur de me tromper.
Oui, de merder, vous le dites souvent, vous avez eu peur de merder.
Oui, c'est ça, ce que les Anglais appellent « fuck up », là. Alors, j'avais peur de... D'ailleurs, la prière des médecins d'urgence, c'est ça, hein, « please God, don't let me fuck up ». Alors, parce qu'un médecin d'urgence peut prendre une situation mauvaise puis la rempirer très rapidement s'il réagit mal. Et moi, j'avais la même chose là, à faire avec l'hôpital. Alors, avec toutes, comme vous dites, là, toutes les nations différentes, tous ces règlements militaires différents, à cause des armées différentes, de l'aviation différente, etc., il fallait que je compose avec tout ça. Puis j'avais très peur de me tromper. Ça a été ce qui m'a mené tout au long de ma mission. Et probablement ce qui a contribué à ce que je revienne un petit peu magané.
Et probablement à ce qui a contribué à ce que vous ayez le meilleur résultat de tous les temps dans un hôpital de centre de guerre en même temps, Marc Dauphin.
Ben, ça a aidé certainement, oui.
Oui. Parlons-en de ce retour-là qui a été plutôt difficile. Et c'est une question que je voulais, dès le départ, quand j'ai commencé votre livre, j'ai saisi l'ampleur de ce récit-là, de cette expérience-là, et je me suis dit, quand il va expliquer son retour, il va parler d'un choc post-traumatique, bien sûr, et quand je suis arrivée à la fin, sans surprise, vous en parlez de ça. Ce qui est de plus surprenant, Marc Dauphin, c'est que ça vous a pris du temps avant de l'avouer et de le réaliser. Vous qui êtes médecin...
Oui, on est tous pareils, hein? On est tous, pas moi, je suis capable, je suis tough, je suis fait dur. On est tous un peu macho comme ça. En tout cas, les médecins, on est pas mal tous comme ça.
Les médecins ou peut-être les soldats aussi.
Les soldats aussi. Alors, si vous combinez un médecin-soldat, en plus urgentologue, alors vous avez la recette parfaite. Et puis, ce qui est bizarre avec la maladie mentale, je m'étais toujours imaginé qu'à un moment donné, si on avait un problème de santé mentale, on s'en apercevait. On disait, bon, ben là, j'ai un problème de santé mentale. Mais c'est pas comme ça. On se sent normal. Puis ce sont les autres autour de nous qui sont pas normaux. La société québécoise était pas normale. Ce qui se passait en Afghanistan, ça, c'était normal. Et on le voit un petit peu dans le film The Hurt Locker, là. Les demi-nards, je pense que ça s'appelle en français. Le type, il se sent plus normal ici du tout. Surtout à la fin, là, quand on le voit là, devant la rangée de céréales, incapable de choisir quelle sorte de céréales acheter pour ses enfants. Et puis, mon épouse me disait ça quand je suis revenu. « Tu fais la rangée de céréales, Marc? » Alors, parce que je partais. Et puis, ça a été très difficile. Ce que j'arrivais pas à comprendre, c'est que quand on dans la définition même du stress post-traumatique, il faut avoir été exposé à un danger pour soi ou pour les autres et avoir ressenti un grand sentiment d'impuissance devant ça. Mais ça, j'ai pas eu ça. J'ai pas eu ça parce que j'avais pas peur là-bas. J'avais peur comme tout le monde. Bon, si la roquette me frappe, de toute façon, celle-là qui va me frapper, je l'entendrai pas arriver. Puis celle-là que j'entends, c'est parce qu'elle m'a déjà manqué. Alors, j'étais occupé avec mon travail. Et, par exemple, une autre fois, quelques minutes après qu'une roquette a explosé à une trentaine de pieds de moi, et puis m'a projeté à terre là, sur les fesses, je dormais comme un bébé.
Alors, vous êtes endormi après, oui, tout
à fait. Aucun problème. Ça m'a manqué celle-là, mais ce sera la prochaine ou ce sera pas en tout, mais en attendant, j'ai du travail à faire tantôt. Alors, dors mon petit garçon. Donc, je comprenais pas, je pouvais pas avoir un stress post-traumatique. Je suis allé au combat, mais j'ai pas eu, j'étais trop nono, puis pas assez entraîné au combat, puis j'étais trop concentré sur ce que je faisais, parce que quand je suis allé au combat, c'était pour sortir des types de situations, disons, difficiles, où ça tirait. Et là, j'étais concentré sur mes soins médicaux. Alors, je comprenais pas pourquoi. Je pouvais pas avoir un stress post-traumatique. Appelez ça une dépression, si vous voulez. Non, je suis pas déprimé. Appelez ça d'autres choses, mais je sais que je suis pas correct. Mais je le sais que c'est pas un stress post-traumatique. J'ai pas de flashback ou j'ai pas de ces choses-là. J'ai pas de situation d'horreur. Je me sens pas menacé. Puis c'est arrivé deux ou trois fois seulement que je fasse les cauchemars, vous savez, les cauchemars dont on se réveille, là, que le cœur veut vous sortir de la poitrine, là, parce que vous étiez sur le point de vous faire tuer. Je comprenais pas. Alors, ça a pris beaucoup de temps. Ça a été difficile pour mon épouse, mon entourage aussi.
Mais ça a pris aussi cette envie de mourir là pour mettre fin à la crainte d'avoir, on revient à ça, d'avoir merdé. Même au retour de la mission, ça vous retournait en tête. Est-ce que je me suis trompée? Est-ce que j'ai mal fait les choses? Est-ce que j'aurais pu faire mieux? C'est ça qui vous hantait beaucoup?
Énormément. Il y a encore des cas aujourd'hui où je repense, non, j'aurais dû faire ça comme ça. J'aurais dû faire ça comme ça. Ça aurait été mieux, tu sais. Alors, ça, c'est ce sont des choses qui vont me suivre toute ma vie, évidemment. Oui. On ne peut pas être 100% tout le temps.
Et il y a un passage dans le livre où vous racontez cet escalier de la honte que les gars, les filles des forces armées canadiennes nomment. C'est l'escalier qui mène à l'étage où il y a les services en santé mentale et personne ne veut emprunter cet escalier-là et personne ne veut qu'on le voit emprunter l'escalier. Je pense qu'à travers votre livre, vous aviez envie également de dire à vos camarades, n'ayez pas honte et si vous avez besoin d'aide, allez la chercher, cette aide-là.
C'est exactement pour ça que j'en ai parlé. Sinon, j'en aurais pas parlé. C'est pour que les gens s'aperçoivent, dire, coudonc, si le doc est capable d'aller s'asseoir en haut dans la salle d'attente avec les autres patients, moi aussi je suis capable. Et ça a donné des résultats. J'ai plus d'une personne, je peux pas dire plusieurs, mais je peux dire certainement quelques-unes de personnes qui m'ont dit, c'est grâce à toi ou si j'ai demandé de l'aide.
Oui. En terminant, Marc Dauphin, vous retenez quoi de ces 6 mois passés en Afghanistan?
Oh, c'est certainement une expérience intense. C'est certainement quelque chose qui m'a surpris de moi-même. Je pensais pas que je serais capable de faire ça. Je pensais pas que je serais capable d'arriver au bout de ça. Alors, ça donne une énorme confiance en soi. Ça donne beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi de penser, beaucoup de réfléchissage à dire « ouais ». Ça fait songer à notre pourquoi sommes-nous sur la Terre, pourquoi faisons-nous ci ou ça ou ça. Beaucoup de réflexions.
Ouais. Et moi, ça m'a fait réfléchir aussi parce que on n'a pas le temps de l'aborder, malheureusement, mais vous parlez beaucoup des enfants là-bas, les enfants que vous avez sauvés, les enfants que vous avez perdus, les enfants que vous avez rencontrés, leur regard, à quel point la vie peut être injuste et comment on est chanceux d'être ici dans une zone de paix et de liberté. Vous y revenez souvent, Marc Dauphin, à la liberté.
Oui, comment on est chanceux d'être au Canada, d'être né au Canada, c'est déjà la plus grande des chances et qu'il faut la préserver. Et puis, il y a des gens qui en veulent à notre liberté, puis il y a des gens qui voudraient changer notre société et qui voudraient qu'on vive comme eux autres dans le temps du Moyen-Âge. Et il faut résister à ça. Mmh. Et il faut dire merci à tous les militaires qui y vont, qui mettent leur vie en danger. Et pour ça, pour protéger notre liberté, pour protéger notre droit de vivre comme des Canadiens.
Par médecin de guerre, sauver des vies à l'hôpital militaire de Kandahar, vous nous avez fait entrevoir, du moins, la réalité de ce qu'ils peuvent vivre. Et ça a été apprécié de mon point de vue, de mon côté, Marc Dauphin. MarcDauphin.com pour en savoir davantage. Et ce livre-là, qui a été publié d'abord en anglais à Toronto et maintenant en français, publié par les Éditions de l'Homme, ça a été un plaisir de vous parler aujourd'hui. Un joyeux temps des fêtes et salutations à votre femme que vous nommez souvent dans le livre.
Merci beaucoup, Mme Paquette, et bonne journée, là.
Au revoir.